Voilà, alors bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour cette croisière. Avant de démarrer, la précaution d'usage, vous seriez assez aimable d'éteindre vos portables parce qu'on se fait toujours surprendre et ce serait trop dommage qu'ils viennent interrompre, couper le propos. Donc pensons-y tous. Nous avons embarqué, nous partons, nous quittons le port, alors rêvons. Ça n'est pas le ferry boat à destination d'une île de la mer Égée, mais on peut toujours justement rêver. Et tout de suite, j'aimerais m'adresser à mes deux invités. Si vous embarquiez sur une île comme ça, brûle-pourpoint, Yanis Kourtzakis, du Pirée, vers quelle île est-ce que vous dirigeriez là ? Maintenant, assez proche.
Je ne parle pas du Pirée, je parle de la ville de Kimi, qui est en Eubée.
Plus fort, plus fort. Oui, c'est, il réglera, c'est pas bon.
Pour aller à l'île de Skyros, où je m'isole pour travailler de temps en temps, tous les ans, pour quelques jours, pour 20 jours, pour un mois.
Voilà. Très bien. Et ensuite, vous, Elsie Sotiropoulou, alors quelle île maintenant vous avez en tête vers laquelle on pourrait s'embarquer juste maintenant ?
Maintenant, en Grèce.
En Grèce, oui.
Et je pense de Pirée pour Paros.
Paros, c'est un bon choix également. Elles sont toutes belles de toute façon. Malheureusement, nous avons dû laisser à quai deux autres invités retenus chacun dans leur pays, Takis Theodoropoulos, qui restait en Grèce, qui n'a pas pu venir, de même que Vassilis Alexakis, lui en France, à Paris. On regrette leur absence, mais nous allons poursuivre tout de même cette conversation, cet échange, et précisément, imaginez qu'on quitte Athènes. Athènes, précisément au cœur de vos deux romans parus récemment en français, en traduction française, pour vous, Elsie Sotiropoulou, un texte baptisé Eva aux éditions Stock, et pour vous, Yanis Kourtzakis, un texte chez Verdier, Double Exil, qui fait suite à un premier volet d'un triptyque qui s'annonce, le troisième volet sans doute pour bientôt. Alors peut-être très concrètement d'abord, avant de voir ce que devient Athènes dans vos villes, que représente Athènes pour chacun d'entre vous ? Attendez, Elsie, que signifie Athènes, j'allais dire au quotidien, très concrètement ?
C'est une ville qui peut être très décevante, en même temps une ville pleine d'énergie. Et parfois, elle ressemble à une statue là où qu'on tient. Et Athènes peut t'engloutir. Et c'est très difficile d'avoir une certaine privacy d'Athènes,
une intimité.
Et en même temps, quand je suis là, je suis très nerveuse, mais ça me manque quand je ne suis pas là. Je l'aime beaucoup plus quand je ne suis pas là.
Elle vous rend nerveuse, Athènes, c'est ça ?
Parce que c'est impossible, car tout le monde, amis et ennemis, sont après vous, sont après moi. Donc, les téléphones, les parents, la famille, tout. C'est très difficile de s'isoler à Athènes.
On est pris d'assaut, on est sollicité aussi par cette électricité permanente. C'est peut-être la raison pour laquelle tout le monde est en éveil et que jamais la ville ne s'éteint, ne s'arrête. Elle vit 24 heures sur 24. Pour vous, Yanis Kourtzakis, alors Athènes, dites-nous.
C'est vrai que
assez proche
je
du
suis
micro,
tout
merci.
À fait d'accord avec Hercy que c'est une ville qui est à la fois sombre et difficile à vivre, mais aussi avec une vitalité extraordinaire. Mais évidemment, j'aime bien partir d'Athènes aussi. Et c'est le large, c'est la mer Égée qui m'attire. Athènes, évidemment, c'était mon berceau pour moi. Et Hercy est né à Patras, si je ne me trompe. Moi, je suis né là. C'était une ville qui était encore très provinciale, très balkanique, assez idyllique, enfin, de mon enfance. C'était une époque où il y avait la guerre civile, mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Et c'est une ville que j'ai beaucoup aimée dans mon enfance, mais qui m'a opprimé beaucoup pendant mon adolescence, ce qui m'a donné l'envie de partir, le désir de partir à Paris, justement. Parce que c'était une ville qui m'étouffait. Je ne me rendais pas compte que c'était l'après-guerre civile. Je m'en suis rendu compte après coup. Et c'était vraiment assez dur. C'était une ville...
Je vais tenir le micro, si vous voulez. où ça va. Voilà.
C'était une ville qui vous opprimait beaucoup, qui vous enfermait, mais alors, c'était, il y avait un désir d'Europe qui m'a fait partir à 18 ans, à Paris. Mm-hmm.
Alors justement, Athènes est au cœur de vos deux romans, c'est l'un des personnages principaux, pourrait-on dire. Alors pour vous, justement, Yannis Kyotsakis, Athènes, c'est d'abord la maison familiale, où votre personnage voit le jour en 1946. On est donc...
41.
Pardon. Je vous rajeunis.
Je
rajeunis le personnage, puisque c'est un texte à la fois autobiographique et en même temps romanesque, on va y revenir. On est donc en pleine guerre civile, vous assistez à distance, puisque vous ne comprenez pas vraiment ce qui vous arrive, hein, vous le dites dans le livre, cette guerre civile qui se développe, qui surgit, et Athènes, petit à petit, s'avère être le théâtre de ces années de jeunesse, puis petit à petit, par un mouvement de cercle, toujours plus excentré, on va dire, vous tournez vers l'extérieur, vous
Exactement.
Nous avez dit, ce besoin d'ailleurs, d'un horizon, c'est le quartier, c'est la ville, c'est le pays et au-delà du pays avec l'Europe, Paris.
Comme des cercles concentriques.
Comme des cercles concentriques.
C'est la maison, le quartier, la ville.
Un jeu de loi.
Oui, la Grèce et puis le vaste monde.
C'est le ça. Vaste monde. C'est Paris aussi, en coquille, comme ça, qui se développe.
Paris étant le symbole de ce vaste monde, à mes yeux, à cette époque-là.
Mm-hmm. Alors, cette capitale, elle vous sert aussi de théâtre pour évoquer dans les deux volumes, je l'ai dit, qui ont paru chez Verdier, ce qui s'apparente à une aventure à la fois intellectuelle, culturelle, de la modernité grecque, de ses rapports à l'Europe, et aussi la Grèce par rapport à des racines plus ancestrales, villageoises. Et enfin, avant tout, peut-être une trajectoire qui est celle de votre personnage, une trajectoire faite d'hésitations, d'un va-et-vient entre l'Europe, Paris et le berceau grec, Athènes. C'est une ville finalement qui constitue peut-être un décor et en même temps qui porte la trace de toutes les mutations. Alors ce décor, il permet à votre personnage de se projeter finalement, d'aller plus loin, n'est-ce pas ?
Exactement. Il faut dire que le lien entre la Grèce et l'Europe est au centre de mon travail depuis le début. J'ai une veine plutôt d'essayiste que de romancier, personnellement. J'ai commencé par un essai sur Séphéris, qui était mon maître, le grand poète grec, prix Nobel de 1963, qui était mon maître. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais ça, il a été mon maître à penser, si vous voulez.
Bien près le micro,
premier titre, le premier livre, c'était La Grèce... Hellénisme et Occident dans la pensée de Séphéris, justement. Et ce thème me poursuit. Je me suis rendu compte, une fois que j'ai terminé ce livre, que c'était vraiment une espèce d'autobiographie intellectuelle. Et ça revient vraiment dans ses romans, mais d'une manière très, très, très nette. Mm-hmm. Alors, le frère aîné, qui se suicide à 26 ans, s'en va faire ses études au début des années 50, en Belgique. Le frère cadet, le narrateur, qui est moi et qui n'est pas moi, parce que derrière cette façade autobiographique, il y a quand même quelque chose de très romanesque, qui n'est pas vraiment fictionnel, mais qui est vraiment une recherche de soi, si bien que cette histoire écrite par moi, je ne la connaissais pas avant de l'écrire. C'est ça le problème. Donc c'est en cela que j'ai compris que c'était un roman, et mes lecteurs, les meilleurs lecteurs, l'ont lu comme un roman, c'est-à-dire comme si c'était des personnages de roman, vraiment. Et alors, je me projette, comme vous dites, on se projette à l'extérieur, et à l'extérieur, en Europe, je découvre, le narrateur découvre la Grèce d'une manière tout à fait nouvelle. Alors, c'est comme ça qu'il apprend la Grèce. Ensuite, il y a les drames historiques qui viennent et qui bouleversent sa vie dans Double Exil, notamment la dictature. Il rêve d'être un commis de l'État, un grand commis de l'État au Conseil d'État, et puis il n'arrive pas à se faire. Il ne peut pas contrôler l'administration publique sous une dictature. Il s'en va encore à Paris, et puis peu à peu, il retourne vers la Grèce profonde, d'où cette notion de double exil. Il n'arrive pas à s'enraciner. Parce que la France, il faut dire aussi que c'est sa seconde patrie. C'est la patrie de son épouse, c'est la France, donc... toutes ses promesses, avec les Lumières, avec tout ce qu'elle lui a appris. Et puis, le retour en Grèce s'avère très pénible. Et alors, il y a une espèce d'exil intérieur qui se fait en Grèce, et il retourne vers la culture orale. Et tout cela lui apprend beaucoup de choses. Et puis, à la fin, il arrive à se retourner vers la Grèce encore plus profonde, la Grèce ancienne, mais pas du tout de la manière académique, de la manière des gens du 19e siècle qui disaient nous sommes les descendants originaux des anciens Grecs avec cette prétention d'être les plus vrais Grecs, les plus vrais Européens. Pas du tout de ce côté-là, mais d'une manière beaucoup plus modeste, à travers la langue populaire, à travers le parler populaire, il arrive à connaître les racines de sa langue éternelle, si vous voulez.
Alors, il y a ce retour à Athènes qu'on peut découvrir. On va entendre un premier extrait, si vous êtes d'accord, nous lire un premier extrait de cette ville d'Athènes. Au moment où il revient, il a fait ses études. C'est le retour au bercail, si je puis dire. Il doit faire son service militaire, ce personnage. Et vous avez des lignes éloquentes. C'est ici, sauf erreur, ça démarre ici. Hein. Vous écoute, je vous tiens le micro.
Oui. Non, mais je le tiendrai. Enfin,
vous voyez, c'est mon
là,
souci, c'est que tout le monde entend.
Je le tiens plus facilement lorsque je lis que lorsque je vous regarde.
Parce oui,
que
c'est difficile. Hein.
Regardez le mon interlocuteur.
On est dans un dilemme impossible.
Alors c'est, il est en perme, en permission, comme on dit. Il sort de la caserne et il découvre sa ville qui change, qui est en train de changer. Il est descendu place Vathis et remonte à pied la rue Acharnon. Une autre ville, cette avenue aux grands immeubles blancs qui conduit vers le Parnasse, qui çà et là s'infléchit et disparaît, ne ressemble vraiment pas du tout à la rue Acharnon telle qu'il l'a connue quand il a grandi ici dans le quartier de Saint-Pantéléimon. Qu'est devenue cette rue d'autrefois, avec ses vieux immeubles à deux ou trois étages, ce quartier provincial et balkanique de l'entre-deux-guerres, si mal éclairé, dès que la nuit tombait, qu'il s'enveloppait dans un halo de mystère. Maintenant, tout s'illumine dans les crépuscules, ne laissant plus aucune place au secret. Où les maisons ont-elles sombré? Et les trams peints en vert, crissant sur leurs rails dans la lumière pourpre du couchant. La boutique de Monsieur Panayotis. Ces messieurs et ces dames au chapeau qui se saluaient à chaque coin de rue. Quand Athènes a-t-elle pris cet air nouveau, cet air de ville méditerranéenne inconnue, surpeuplée, avec ses immeubles populaires, son linge étendu sur les balcons, comme dans ces villes populeuses du sud de l'Italie qu'on aperçoit au loin quand on voyage en train. Quand ce chambardement a-t-il eu le temps de se faire? Mais la ville de jadis n'a pas complètement disparu. Il en reste des vestiges derrière ces hauts immeubles, dans la plupart des rues qui donnent dans la rue Acharnon, ou qui lui sont parallèles, et on les voit se multiplier en descendant vers la place de Larissa, vers la gare de Larissa, pardon. Comme dans la rue Alcamenus, où se trouve la maison de Panayotis, c'est son camarade dans l'armée, là où vit sa mère aveugle, une de ses maisons au rez-de-chaussée, avec leur cour fermée par un portail à grilles et couverte d'une treille, qui l'émeuve tant sans qu'il sache pourquoi. Il a fait des pieds et des mains pour convaincre Panayotis de l'amener chez lui. Et quand enfin, un après-midi du mois dernier, en sortant de la caserne, il l'a convaincu en lui disant combien il aimait sa maison, Panayotis l'a envisagé d'un regard méfiant qui semblait lui dire « Tu te fous de moi ou quoi ?» Il s'en souvient maintenant et il a honte d'aimer ses humbles maisons, comme s'il était un de ces touristes qui parcourent le quartier d'un Aphiotica et qui trouve tout beau et pittoresque. Il a honte de vivre dans une maison confortable, dans un palais. N'est-ce pas ainsi que Panayotis verra sa maison? Et lui, voudrait-il vivre dans la bicoque de Panayotis? N'est-il pas étrange de constater que la baraque de Karagiotis et le sérail du Pacha continuent de hanter cette ville?
De hanter cette ville. Merci pour cette lecture. Cet attachement à la ville d'Athènes. Alors, je me tourne vers vous, Elsie Sotiropoulou. Est-ce qu'on peut dire que votre personnage est attaché à sa ville?
Elle vit là. Elle n'a pas le choix, je crois. Elle vit, elle aime, elle doit se débrouiller. Elle est très coincée au moment où on rencontre ces personnages par des problèmes, soit financiers, soit personnels. Elle a des aspirations que petit à petit elle se rend compte que peut-être elle ne sera pas capable d'assouvir. Elle est insatisfaite. En même temps, elle se permet une nuit libre, entre guillemets, une nuit folle.
Une nuit folle, on la suit justement à Athènes et on la traverse cette nuit avec votre personnage féminin, Eva. Elle passe d'abord d'une soirée de pardon, de réveillon. On est à la veille de Noël et elle se sent un peu décalée dans ce milieu très, on va dire, superficiel.
Et branché, etc. Parce que là aussi, elle a eu une invitation, elle a eu un carton qu'elle a pris comme ça. Elle n'était pas directement invitée.
Elle a pris ce carton et donc, elle décide de quitter finalement cette soirée pour aller dans la rue. Et elle va finir son errance nocturne sur le trottoir au pied d'un hôtel, un hôtel borgne, où là gravitent une série de personnages marginaux, très attachants, des êtres de la nuit. Il y a là une prostituée, un voleur aussi, un voleur à la tire. Il y a aussi pickpocket, oui, c'est ça. Un chanteur, enfin, il est raté, on va dire ça comme ça. En tout cas,
non. Il fait partie d'une chorale.
Oui, pardon.
Il est veilleur de nuit et en même temps, il fait partie d'une chorale.
C'est ça. Bref, des personnages décalés qui vont petit à petit se confier à Eva et qui vont parler de leur vie. Et ça va être une sorte de miroir, de rêve révélateur. Vous l'avez dit sur son existence à mi-chemin entre la réussite, le désarroi, sa vie familiale aussi et peu heureuse puisque son père, à Eva, est aux soins à l'hôpital. Il est en sursis, on va dire ça comme ça. L'hôpital peut le garder durant un mois et pas plus. Hein, et ça va jouer un rôle. Alors, ici, finalement, la ville est à l'image du personnage. Elle a quelque chose, cette ville, de quelque chose qui se défait, qui se déglingue. Merci, c'était le rôle.
Oui, car on vit sa vie dans une ville, je ne sais pas, soit à Athènes, soit à Paris. Et à côté, il y a une autre ville qu'on ignore, qu'on passe. Et on peut vivre toute sa vie en ignorant ses parties enfouies, ces coins sombres de la ville. Qui sont, peuvent être aussi des coins refoulés de son propre psychisme. Mm-hmm. Et là, elle, en laissant derrière elle cet endroit, cet club, où elle a rencontré un jeune écrivain qui l'a fait rêver un peu, c'est une possibilité d'une histoire peut-être amoureuse. Mais en plus, ils sont survenus des choses. Et ça, il y avait, c'est quelque chose qui s'est passé à Athènes. Ces 3-4 personnages qui sont introduits là, dans le club, en cherchant de trouver quelque chose à manger. Elle n'était pas invitée. Mm-hmm. Et ça, je ne me rappelle pas maintenant. C'est difficile maintenant parce qu'on ne fait pas de fêtes comme ça. Mais je me rappelle même il y a des années, dans des présentations des livres, où il y avait un petit cocktail. Il y avait toujours 3-4 personnes qui entrait, il mettait dans les... Et là, il y a un drame actuellement qui arrive ce soir.
Il y a mort d'homme, en l'occurrence, oui, dans cette première partie.
De quelqu'un affamé.
Oui, exactement. Donc c'est autrement grave. La scène est saisissante. Et peut-être pour mieux comprendre encore dans quel univers urbain on avance, vous entendre là aussi, merci Sotiropoulou, ce court extrême, et je crois qu'il parle très, très clairement de l'univers justement spatial dans lequel on évolue.
Ah là elle est
assez bien prêt.
Merci. Elle est sortie du club, elle pensait prendre un taxi pour entrer, donc son errance est complètement fortuite, elle part comme ça, et c'est pas qu'elle a décidé de commencer à marcher à Athènes pendant la nuit. Elle n'était pas du tout sûre de l'itinéraire et tourna au hasard dans une ruelle plantée ça et là d'arbres chétifs. Des oranges amères pourries pendaient de branches poussiéreuses qui frémissaient dans la pénombre. Il n'y avait pas un chat. La ruelle était déserte, remplie d'ombre. En temps normal, celle dans ce quartier, elle aurait paniqué et se serait dépêchée de partir. En temps normal. L'endroit sentait l'urine et les épices. Derrière la vitre ternie d'une devanture, elle distingua un amas de bosses d'origan séchés, à moins que ce ne fût pas de la chose. Vais-je revoir les bestioles dorées, se demanda-t-elle. Elle plissa les paupières, il n'y avait que la rue devant elle. les galeries sombres, une poubelle qui débordait d'ordures.
Merci beaucoup. Mélange saisissant donc de végétal et de matière métallique, froide, sombre, et ces oranges amères pourries qui pendent des branches poussiéreuses. Ça me fait penser à votre premier roman paru en français, Zigzag dans les orangers, amer.
Alors, oui, en français.
Oui, exactement, mais on retrouve ces oranges amères. C'est votre premier titre paru en français chez Maurice Nadeau. Ces oranges en on peut les manger, merci. Il faut non. les confire, c'est ça?
On doit les confire, on pourrait faire une sorte de marmelade, quelque chose comme ça. Quoi. Sinon, elles sont trop amères.
Trop amères. Alors pourquoi est-ce qu'elles
apparaissent? Il y en a partout à Athènes.
Il y en a partout, et elles sont très belles. D'ailleurs, celui qui les découvre se dit, ah ben voilà des oranges, on va pouvoir les manger. Non, pas du tout. Alors pourquoi est-ce qu'elles reviennent comme une sorte de petit signe ici, de clin d'œil, et puis elles ont sans doute aussi une signification pour vous, elles ont une certaine valeur, ces oranges amères?
Je ne sais pas, peut-être je me rappelle une image qui était, quand j'étais vraiment très jeune, j'avais, et ça est parti, de là est parti Zigzag dans les oranges amères. J'avais 11 ou 12 ans, et au bord du trottoir, il y avait un sergent de sur la pointe de mes pieds.
Sur la pointe des pieds, oui.
Oui, en cherchant de tenir un équilibre. Mm-hmm. Et c'était cette série d'arbres, des orangers amers à côté de moi. Et c'est quelque chose qui me rappelle un moment de l'adolescence.
Oui.
Où, dans un monde, la plupart du temps hostile.
Oui.
On cherche son propre équilibre.
Oui, c'est une très belle image. Donc, cet exercice d'équilibriste sur la pointe des pieds et cette présence des oranges amères à vos côtés. Elles sont les témoins de cette recherche d'équilibre de vos personnages. Et alors, on avance précisément dans la nuit. La nuit comme un moment de vérité, de révélation, à la fois du monde qui nous entoure et peut-être de cette vérité personnelle. En quoi est-ce que la nuit lui permet de voir clair à votre personnage?
Ce qui se passe là, c'est que tous ces gens un peu étranges qui sont complètement différents et aliens à son milieu, ils se présentent à elle plus proche de ses connaissances. Vrai. Mm-hmm. Et en même temps, c'est que le processus dans les livres, c'est que ce qui est proche devient étrange, devient loin de soi. Et ce qui est étrange devient proche.
C'est un renversement du lointain et du proche.
Oui, oui, ça arrive, je veux dire, c'est quelque chose, à moi, arrive très souvent.
Vous n'avez pas besoin de la nuit pour ça?
Non, non. Pas toujours. Mais la nuit,
c'est plus fort.
Et puis, en plus, comme il s'agit de la nuit, de la veille de Noël, c'est une nuit très chargée parce qu'on a beaucoup d'expectations.
D'attentes, d'espoir.
D'espoir. De... Mm-hmm.
Et donc, c'est quelque chose d'un moment, justement, de vérité et avec cette pression par rapport à Noël. Alors, cette nuit lucide sur elle-même, et grâce au personnage qu'elle rencontre, ça va s'accentuer encore grâce aux propos d'un personnage saisissant qu'elle rencontre, cette prostituée qui se tient là au bord de la route. Alors, si vous permettez, j'ai l'extrait là sous les yeux. La femme m'ajouta quelque chose à propos des vieux. Le pire, c'était cet égoïsme, ce cœur sec de vieillard, qui n'aime rien ni personne, qui s'accroche à la vie comme une sangsue et ne renonce à rien. Il en veut toujours plus, toujours plus. Tu leur coupais la tête et ils continuaient de courir comme des poulets. Tu as déjà vu égorger une poule? C'est exactement pareil. Et dans les cimetières, ils ont de gros problèmes, parce que les cadavres, des vieux, ne fondent pas. Ils les ont tellement dopés avec des médicaments pour les garder en vie, que leur chair ne se dissout pas, elle reste collée aux os et les os résistent comme s'ils étaient en plastique. La femme leva les bras, exaspérée. Elle regarda la braise, puis se retourna vers Eva et la fixa de son regard de myope. « C'est quoi ton problème ?» demanda-t-elle. Quel problème ? Rien, répond Eva. Rien, ça veut dire rien, et rien, ça veut tout dire. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi ? Insiste à la femme. Mon mari et moi étions à une fête et nous nous sommes disputés. Vous êtes mis plein la tronche, plutôt. Pas du tout, s'empressa de répondre Eva, sous-entendu qu'il n'en était pas venu aux mains. Non, ma petite, je veux dire, ça a dégénéré. Il t'a mal parlé ? D'une certaine façon. Fais pas attention, c'est pas grave. Au contraire, regarde-moi par exemple. J'ai une jarretière qui pend. Elle pend, n'est-ce pas ? Je n'avais pas remarqué, mentit Eva. Impossible. La voilà, elle est là. Tu crois que je ne le sais pas ? Je la sens et elle me gêne entre les genoux. Mais je la laisse pendre exprès. Pour quelle raison ? Parce qu'il faut qu'un truc cloche, sorte des clous. Sinon, la vie est insupportable. Il y a, vous mettez en scène cette contrariété nécessaire. Le roman se nourrit d'une expérience contrariante.
J'ai quelque chose.
Le roman exploite cette contrariété du monde. C'est okay. Ce monde qui empêche les personnages d'avancer. Le roman naît aussi de ça dans votre projet romanesque.
Oui.
Et quel type alors de difficultés ? Ce ne sont pas uniquement les difficultés matérielles, ce sont aussi finalement les difficultés mentales, psychiques de vos personnages. Je pense au roman précédent, Alexis Sotiropoulos.
Je ne sais pas quoi je dois dire.
Rien, c'est juste une remarque. Ce n'est même pas une question.
Parce que c'est blague, je veux dire.
Oui, vous avez raison. C'est une question de journalistes totalement bêtes qui n'en sont pas. Passons. C'est bête. Je me tourne vers vous, Yanis Kiotsak, et signe-nommé. Alors, la nuit, chez vous, c'est pas la nuit d'Athènes. Et là, ça fait un contraste très intéressant dans votre livre. C'est la nuit, les nuits froides de Paris. Et plus largement, ces nuits froides du Nord. Les nuits du monde civilisé, ce Nord civilisé, et pourtant, il y fait froid. Hein. Ces Parisiens qui éprouvent toute la nostalgie, et surtout la solitude de leurs conditions. Peut-être un petit mot, et puis on va pouvoir écouter, vous entendre dans la lecture.
J'ai dit tout à l'heure que j'ai découvert la Grèce, la lumière de la Grèce, à travers l'obscurité, les ténèbres de Paris, si vous voulez. Il faut dire que c'était lié à une expérience existentielle, c'était la disparition de mon frère. Et cela, ça m'a poursuivi pendant toutes mes études, mes années d'études. Paris renfermait en lui tant de nuits. Avec une précision implacable, chaque crépuscule ramenait ses ténèbres qui immanquablement précipitaient tous les hommes dans l'amour et la mort, assignant à chacun sa part d'une vie commune mais toujours solitaire, le sommeil commun mais toujours solitaire de la grande ville. Le perpétuel retour de la nuit, son sempiternel présent, son présent cauchemardesque, des corps qui s'ignoraient quelques instants auparavant et qui s'enlacent sauvagement dans un lit avant de replonger aussitôt dans la solitude, des cœurs dont le pouls s'accélère, ralentit puis se précipite à nouveau quand les rêves tournent au cauchemar. La même histoire dans des milliers de chambres, au-dessus des rues désertes, plongées dans la pénombre, dans des chambres contiguës mais closes et isolées. La même histoire dans les millions de corps, dans des millions de corps, dans des millions de cœurs, qui même s'ils se reflètent l'un l'autre, ne cesseront de s'ignorer jusqu'à la fin du monde. Et au dehors d'interminables files de voitures garées, toute une population inanimée de boîtes métalliques qui enchaînent le corps de la ville, le feu de signalisation qui s'allume et s'éteigne dans le vide, une porte qui s'ouvre brusquement découvrant la pénombre d'une pièce enfumée, d'où va sortir une prostituée ou un poivreau. Les sirènes de la police, les sirènes des ambulances, la sonnerie insistante du téléphone quand il n'y a personne pour soulever l'écouteur, l'annonce d'un décès qui n'intéresse plus personne, et puis l'aube à nouveau, les réveils qui arrachent des milliers de rêves au sommeil, des doigts qui cherchent à tâtons un interrupteur, des pas dans les couloirs, des planches qui craquent, des chasse-tôt dans les toilettes, la tension de la ville qui monte soudain. On entend déjà le métro rouler sous les pavés, l'autre ville dans les entrailles d'une cité où règne une nuit éternelle, une nuit qui serait suffocante si là-dessus tout n'était artificiellement éclairé. Et là-dessous, pardon, tout n'était artificiellement éclairé, aéré. Voilà qu'apparaissent au carrefour les cohortes de Lève-Tôt, que le labyrinthe souterrain vomit toutes les demi-nuites à la surface. La nuit qui se jette à nouveau dans le jour. Un jour presque toujours gris et terne, avec ces gens qui, matin et soir, sombrent dans un perpétuel crépuscule, qui courent gagner leur pain ou faire du profit. Ne faire plus qu'un avec les machines, travailler comme des machines, devenir des machines pour produire, produire toujours plus d'objets, sans âme, qui enchaîneront un peu plus la cité, jusqu'à ce que le jour s'achève et que la nuit revienne. Mais à quoi bon ?
Et alors, prolongeant cette thématique de la nuit, vous faites votre personnage saisit, comprend petit à petit, outre ce contraste entre la lumière grecque du sud et cette nuit froide du nord, que ça relève aussi d'une opposition presque mythique entre, dites-vous, une nuit faustienne et une lumière prométhéenne. Alors expliquez-nous ça en quelques mots, très difficile évidemment d'être bref, mais enfin essayez.
Je me souviens que notre professeur d'économie politique à Paris nous disait que notre époque, il parlait du système capitaliste, c'était un professeur d'économie politique, notre époque, notre système économique est à la fois faustien et prométhéen. Ça m'avait frappé cette image, parce que prométhéen aussi c'est une hubris, comme on dit, l'hubris. Injure, c'est-à-dire dépassement de mesure, n'est-ce pas ? Mais en réfléchissant à ces deux mythes, je voyais une différence fondamentale. Faust a voulu vendre son âme au diable, n'est-ce pas, pour gagner la jeunesse éternelle. Prométhée a commis, a désobéi aux dieux pour offrir le feu aux hommes. Et le feu, c'était un peu aussi la lumière, n'est-ce pas ? Alors je pensais que c'était un mythe quand même auroral, si vous voulez, alors que l'autre, c'était un mythe nocturne. Et en lisant les vers d'Eschyle qui disent « O Dios Ethir, ketachip teripnoe, potamon te pillé, pondion te kimaton, anirithmon gelasma, keton panoptin, kiklonilio calo », ce qui veut dire, enfin, je ne me rappelle plus, c'est en français. Et alors...
C'est écrit en français. Oui, on connaît tous Eschyle par cœur. Je crois qu'il n'y a pas besoin de mise au point là. Hein. Ça vous va ?
En pensant ça, croit. Je pensais que c'était vraiment, c'était plein de lumière ces vers.
Plein de lumière, oui.
Alors voilà. Je voudrais chercher le. Je veux pas empiéter sur le temps.
Non, bah écoutez, bon, le capitaine fait ce qu'il veut avec nous, hein, il pourrait très bien prendre tout d'un coup une tangente et nous amener à Évian, sur une île, oui. La tangente, justement, la tangente Terzi Sotiropoulou, c'est un mouvement que vous aimez bien dans l'écriture, de prendre, de ne jamais finalement passer d'un point A à un point X ou Z. Vous méfiez beaucoup des lignes droites dans l'écriture par rapport à un récit linéaire.
Car le récit linéaire m'ennuie.
Pourquoi ?
Et donc, quand j'écris, je dois être un peu excité moi-même, sinon...
Il faut de la rupture.
Non, il y a des récits linéaires qui peuvent être très inventifs.
Mm-hmm. Des exemples ?
Je ne sais pas.
Non, bon. C'est pas grave. On reprend la scène, il n'y a pas de problème. La linéarité, en général, vous ennuie. Et donc,
Je pense que c'est plus intéressant et plus révélateur pour la réalité, parce que ce que c'est la réalité. La réalité sont des détails un peu... qu'ils sortent un peu en dehors du cadre qu'on attend. Ça, c'est révélateur pour la réalité. Donc, je crois qu'on... on peut éliminer une situation, qu'est-ce qui se passe, en éliminant des recoins un peu sombres. Et ça peut nous dire beaucoup plus sur un rapport. Mais par exemple, si on doit, par exemple, quelque chose de très banal, un repas de famille, c'est beaucoup plus intéressant au lieu d'écrire tous les mecs, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on dit, etc. Si on prend. Des petits mouvements, comment on passe les selles, comment des gestes, ça peut être beaucoup plus intéressant à ce qui concerne aussi les relations et les rapports de force.
Ce sont des moments, des symptômes un peu
des
signes,
des petites épiphanies parfois,
oui,
qui là est comme dénudé ce qui se passe vraiment Donc, c'est pas besoin de faire un grand cadre pictoresque de tous les, avec tous les détails.
Mmh. Pas de mise au point, mais au contraire, laisser venir ces petits surgissements comme
faire
ça.
Faire un changement de la, un changement de lumière, un changement de, point de vantage.
Oui, le point de vue et oui. La façon de percevoir. Alors, et c'était aussi mental, finalement. Ça peut se passer aussi dans la tête de vos personnages. Vous êtes très attentive à cette variété d'idées subreptices, comme ça. Mmh. Mmh. Par rapport à l'écriture romanesque, en quoi est-ce que c'est finalement plus stimulant? Et en quoi, finalement... Alors, ça vous correspond, mais l'esprit de votre personnage... avance comme ça à petits pas et il n'a pas besoin finalement de parler beaucoup. Quand vous faites parler vos personnages, est-ce que vous privilégiez aussi cette écriture intérieure, cette voix intérieure ou plutôt il faut qu'il s'exprime?
Ça m'intéresse beaucoup et chaque fois c'est la chose plus difficile, c'est de trouver pour chacun sa propre voix et ça prend vraiment du temps. Et c'est pas la même chose, c'est différent ce qu'elle fait Moira.
Moira, la prostituée,
oui, qui est la prostituée, qui est vraiment quelqu'un de très sage, moi, mm-hmm. je trouve. C'est différent le processus d'Eva ou de Titika, la petite prostituée, la jeune.
Mm-hmm. Et en face alors, de ces personnages, il y a les hommes, certains hommes, les hommes du pouvoir, qui sont là, qui apparaissent, et notamment un sous-ministre, si je me souviens.
Un député,
oui, qui lui a acheté... alors. On le sent bien, une partie du quartier, en tout cas l'hôtel, visiblement lui appartient. Certains personnages masculins ont posé leur loi, et c'est une loi de la force, véritablement.
Oui, et là, c'est la loi de la force, pas seulement
assez près
sexiste, mais aussi politique. Et là, pouvoir et sexe s'entremêlent.
Et là, vous faites surgir précisément alors une dimension du pouvoir au corps, le pouvoir sur le corps, le pouvoir sur la ville. Est-ce que Athènes, et pour revenir à Athènes, vous donne l'impression d'être maintenant l'objet de toutes les spéculations, où on est dans une phase par rapport à la ville où finalement tout se vide, tout s'éteint, où on a déjà une vague d'anticipation, d'achat, de...
Il y a eu ça, étrangement. Maintenant, j'ai le sentiment de quelque chose comme figé avant un tremblement de terre. Je suis sûr qu'ils attendent, qu'ils sont très attentifs, que les vrais capitales attendent mm-hmm. le moment. Mais ils attendent qu'on s'effondre encore plus.
L'objet du deuxième débat qu'on a, littérature et politique,
oui,
avec
tout
Hercy,
à l'heure. Oui, exactement, c'est à noter, c'est bien de le signaler. Alors, pour bien comprendre, je pense que si vous êtes d'accord, brièvement un dernier extrait pour qu'on sente bien ce qui se passe dans ce zigzag narratif, Hercy Sotiropoulou. On est donc dans cette soirée chic, guindée, impersonnelle, dans cette discothèque au début, et on est vers le bar. Deux climatiseurs vomissaient de l'air frais qui descendait en cascade givrée sur la piste vide avant de se noyer aussitôt dans un réservoir empesté d'alcool et de fatigue humaine. Elle crut entendre le souffle de l'homme derrière elle. Il la poursuivait comme dans les films et elle savait que si elle s'arrêtait, le souffle cesserait lui aussi. « Je joue dans mon propre film et mon film est débile », pensa-t-elle. Des serveurs surgissaient de tous côtés, s'activant vers le bar. Elle chercha Nikos, donc son partenaire, du regard, tout en souhaitant ne pas le trouver, en espérant qu'il soit déjà rentré à la maison. Elle entendit à nouveau le souffle derrière elle. Pas vraiment un souffle, plutôt le bruit sourd d'un sanglot étranglé. La musique jouait à présent en sourdine dans le fond, quelqu'un miaulait. « Tes citrons sur mon balcon » et le sanglot étouffé pénétrait les paroles de la chanson. « Quand nous retrouverons-nous, seuls tous les deux, grésillait la voix ?» Ce fut alors qu'elle remarqua la femme au bonnet qui se tenait au milieu de la salle. Le bonnet était en tricot blanc avec un nœud en velours fané au-dessous. La bouche de la femme vibrait comme une plaie ouverte. Ses signaux, tout d'un coup, ses gestes, ses petites épiphanies. À côté d'elle se trouvait un vieil homme qui lui parlait tête baissée, mais qu'elle n'entendait ni ne voyait. Ses yeux étaient fixés sur l'angle du comptoir où s'était tenu l'homme au tweed. Son corps se balançait en un va-et-vient régulier, tandis qu'elle lâchait cet horrible sanglot. Depuis le bar, le gérant, qui était encore agenouillé et parlait dans son portable en couvrant la corne de l'oreillette de la paume de sa main, se retourna, surpris, pour localiser le bruit. Deux autres types se penchaient sur le corps à terre, piétinant autour en l'examinant sous tous les angles, comme s'ils devaient déterminer son meilleur profil. Un serveur apporta une serviette pliée qu'il glissa sous la tête de l'homme. Son visage se souleva dans la lumière granuleuse, ses joues creusées comme des taches de cendre. Puis il roula sur le côté, l'air étonné et les gémissements s'intensifia et résonna, plaintif et désespéré, à travers la salle. Regarde comme elle s'agite. Ses mains, je te dis, regarde, elle bouge ses mains comme Joe Cocker. Comment il t'est revenu, celui-là? Il est toujours vivant? Laissez-les partir! J'aime son bonnet. Le bonnet, c'est une Vivienne Westwood. Non, mais le vieux a fauché un salami entier. Ils sont venus ensemble avec le type du comptoir. Je n'y crois pas. Ce gérant est en vautour. Ils avaient même du papier alu. Ah, la belle équipe. Mate leur poche. Merde, les flics. Mais quel con, pourquoi ils ne décampent pas maintenant, ces cons? Par où veux-tu qu'ils partent? Il est vivant, l'autre? Mais dis-moi, comment ils ont pu entrer? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il avait faim. Je n'ai rien pu voir. Pas croyable! Laissez-les partir, bande de cons. Les cons, c'est nous qui regardons. Ils les ont encerclés. C'est une honte. Bonne nuit. Pourquoi tu pars? Le meilleur est à venir. On lui a donné à boire une orangeade. Pourquoi pas du melanosomos? Quoi, le bouillon des Spartiates? Je te dis qu'il s'est mis debout et qu'il a marché. Comme Lazare. Alors, j'essaie tant bien que mal de rendre cette multiplicité de voix, enfin cette douce cacophonie et, qui fait partie, on le comprend bien.
Ça, c'est un peu concis comme l'équerre dans la tragédie grecque, parce que c'est l'équerre qui suit.
Oui.
L'équerre de ces invités branchés, de ces clubs, qui suit tout ce qui se passe. Trois personnes sont introduites là pour trouver des choses à fausser, à manger. L'un est mort, les deux autres, la femme a s'en pleuré. Mm-hmm. Et là, tous les groupes
autour
suivent la scène. Et au début, ils pensent qu'il s'agit d'une performance faite pour créer à propos pour cette soirée. Ils ne croient pas que c'est quelque chose qui arrive, que quelqu'un est mort, etc. Mm-hmm.
Yanis Kurtzakis, pour évoquer alors vous, une appropriation intéressante de l'écriture romanesque, je dirais c'est la surimpression. Vous surimprimez volontiers le témoignage de ce frère disparu, mais avant qu'il disparaisse, il a une trajectoire riche, il va faire une formation, ses études en Belgique, il quitte le giron familial et de là il écrit toutes ses lettres. Parce qu'il a la nostalgie du pays, il ne comprend pas où il a atterri, dans ce nord un peu hostile. Et votre narrateur, la famille entière, accueille ces lettres. Vous nous les donnez à lire. Elles sont réécrites comme si elles faisaient partie déjà d'une sorte de corps romanesque.
Ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des lettres authentiques. À 99,9% des cas. Il y a de toutes petites modifications. Évidemment, il y a un montage, parce que ces lettres, elles étaient innombrables. Bon. Mais c'est pour ça qu'il y a le dicolone, cette image du frère qui porte son frère mort sur son dos, parce que j'ai l'impression que le frère disparu est le co-auteur de ce livre. C'est un livre romanesque, c'est pas une autobiographie, mais j'ai l'impression que nous sommes devenus tous les deux personnages à partir du moment où j'ai écrit ce livre. Alors, mm-hmm. Vous vouliez que je lise un passage?
Oui, peut-être vous préciser le dicolone, qu'est-ce que c'est?
Le dicolone, c'est... moi, je me suis occupé beaucoup de culture populaire. J'ai écrit sur le Karagiozis, qui est le théâtre populaire grec, le théâtre d'ombre, mais j'étudiais plus généralement le carnaval. Dans le carnaval du pont, Pontus, en Asie mineure, il y avait, dans le carnaval traditionnel, coutumier, de 12 jours, dodécaïmero, du Nouvel An, il y avait une figure qui m'avait fasciné. C'était un personnage qui porte sur son dos, en permanence, son frère, le corps de son frère mort. Alors, ce livre, c'est une intuition. Ce livre, la trilogie romanesque, qui s'appelle Le même et l'autre, l'identité et l'altérité qui se niche au cœur de l'identité, c'est ça le thème, enfin philosophique du livre, si vous voulez. J'ai découvert que le dit Colonne, c'était moi. C'est moi qui portais mon frère mort. 30 ans après sa disparition, je me rends compte qu'il faut que j'écrive un livre comme une dette envers lui, mais envers tous mes morts et envers mon pays lui-même, parce que je sentais que derrière ces personnages, il y avait quelque chose de collectif. Ce n'était pas vraiment une histoire d'une famille, simplement. C'était l'histoire même de la Grèce. Alors.
Et donc une surimpression très riche, puisque finalement vous accueillez ces lettres, vous les reproduisez dans le livre, vous les commentez également, le narrateur les commente, oui, et petit à petit, l'écriture va naître à la lecture de ces lettres.
Exactement, l'écriture, parce que ces lettres, elles étaient adressées à toute la famille. Moi j'avais 10 ans à l'époque, je les lisais mais je n'y comprenais rien, enfin je ne comprenais pas vraiment le drame de ce jeune homme. Si vous voulez, lorsque je le relis 30 ans après, je découvre l'histoire. Et alors, il y a cette surimpression, comme vous dites. C'est-à-dire cette comparaison entre les impressions que j'avais à l'époque. Je ne sais pas quel passage vous m'avez donné, mais je pense que
c'est ça.
Je ne sais pas si ça correspond à ce que je dis. Oui.
Vous pouvez y aller.
Mais tout cela, je le vois aujourd'hui. Ah oui, voilà. Il y avait l'image que j'avais, que j'ai aujourd'hui en écrivant le livre. Alors, c'est l'image qui précède. Que voyais-je alors ? Alors, que voyais-je alors quand ces lettres arrivaient chez nous, écrites depuis peu ? Et quand je les lisais pour la première fois avec mes parents, je vais essayer de le dire, bien que je sache qu'il m'est impossible de me défaire de l'image que me donne mon regard actuel, ma pensée actuelle. Mais de notre côté, que serait mon regard actuel et ma pensée actuelle si je n'avais pas vécu à cette époque dont je parle ? Quelle valeur ces lettres auraient-elles pour moi aujourd'hui si elles ne m'avaient déjà parlé à cette époque ? Comment pourraient-elles me faire pleurer et rire quand je les relis maintenant, si elles ne m'avaient pas déjà fait pleurer et rire à ce moment-là? Serait-ce pour d'autres raisons? C'est assurément mon regard d'autrefois qui donne son sens à mon regard d'aujourd'hui. Je ne pourrais voir ou penser ce que je vois ou pense maintenant sans cette autrefois, sans cette profondeur de champ. J'ai parfaitement senti cela le jour où j'ai relu pour la première fois depuis lors plusieurs de ces lettres. C'était comme si je les lisais pour la première fois de ma vie. Puisque tout avait changé, puisque plus rien n'était à sa place, puisque Harry s'était définitivement parti loin de moi, et que je n'étais plus le petit Yanis, puisque de l'écriture dense, régulière de mon frère commençait à émerger des gens, des sentiments, des événements que j'avais complètement oubliés. Oui, mon impression était que je venais d'entendre parler de cela à l'instant. Et pourtant, non. Au même moment, je savais au plus profond de moi-même que tout cela m'était arrivé à moi aussi, que toutes ces heures de ma vie passée qui avaient sombré dans l'oubli étaient des heures qui étaient tout aussi miennes que l'étaient mes parents, mon frère, mon sang. Et j'ai fondu en larmes, en comprenant soudain de combien de passés effacés j'étais fait.
C'est l'absence de l'autre qui crée ce...
Aussi ce sentiment de se revivre qui vous fait vivre, j'ose le dire, plus authentiquement ce qu'on a vécu.
Mm-hmm. C'est-à-dire
la remémoration vous fait revivre ce que vous avez vécu d'une manière plus intense ou d'une manière différente, en tout cas, plus intellectuelle, plus mentale, plus psychique. Vous comprenez mieux le drame de cette époque, alors que ce que vous ne saisissiez pas à l'époque. Lorsque vous étiez enfant.
On est dans quelque chose finalement qui rappelle un peu Proust, dans cette remémoration et du livre qui naît à la fin de tout votre travail d'exhumation et de relecture. Le livre est là, il est né de ce regard en arrière.
Il faut dire que Proust a été un des mes maîtres à écrire. Enfin, il y a trois maîtres pour moi, c'est Ferris, que j'ai cité tout à l'heure. Proust est un théoricien. Un grand philosophe qui est Bakhtin, Mikhaïl Bakhtin, qui m'a beaucoup aidé à éclairer le langage du carnaval, qui est présent dans ce livre, parce que le carnaval, c'est le langage, le monde à l'envers, c'est l'inversion toujours, et le roman, c'est aussi une écriture qui ne cesse de s'inverser, n'est-ce pas ?
Et vous alors, Elsie Sotelopoulou, vos auteurs de prédilection, vous en avez ? Ce que vous lisez, vous avez lu, qui vous ont marqué ?
Pas beaucoup. Tellement beaucoup. J'aurais dit pas écrire. Il y a tellement vraiment d'écrivains extraordinaires.
Des auteurs
grecs, c'est surtout la poésie. Et là, c'est Sepheris et Kavafi. Mais la poésie aussi m'a marqué quand j'étais adolescente. Ezra Pound T.S. Eliot. Et comme écrivaine...
Vous avez signé un recueil de poèmes, je crois, pour savoir.
Oui.
Vous avez commencé par l'écriture poétique.
Oui.
Et pourquoi vous l'avez laissé de côté?
Elle m'a abandonné petit à petit. J'ai continué à écrire, mais
c'est
parfois...
elle qui vous abandonne, c'est pas
c'est
vous.
C'est la poésie mère, oui.
Ah, mais c'est toujours l'autre, hein.
C'est toujours l'autre.
C'est toujours l'autre.
Dans la vie et dans l'écriture aussi.
Ben oui, c'est bien connu.
Mais j'ai continué à écrire. Parfois, il y a des passages qui sont des vers.
Oui.
Sont là, mais les lecteurs ne se rendent compte pas que c'est parti d'une poésie.
Mm-hmm.
Ça, il existe.
Et alors, Yannis Kourtzakis parlait de cette façon de revivre quelque chose dans l'écriture. Pour vous, c'est de cet ordre-là aussi, où on est dans l'invention permanente.
Je ne sais pas si c'est chargé d'invention. Peut-être pas. Comme une exploration, peut-être. Plutôt exploration.
Une exploration.
Une exploration à double direction, vers le monde et vers moi-même.
Yannis Kourtzakis.
Exploration. Oui. Là, je me retrouve tout à fait. Exploration vers soi-même et vers le monde. Et c'est ça l'écriture. C'est une écriture qui... On ne sait pas ce qu'on va écrire. On explore. Alors, une chose, c'est fini. Et puis l'autre, deuxième remarque. Moi aussi, je suis parti de la poésie. Et je crois que c'est plus général. La Grèce a une tradition poétique très, très riche. Elle a une tradition de prose plus pauvre. Alors, nous commençons tous, plus ou moins, par la poésie.
Comment est-ce que vous expliquez cette prééminence de la poésie dans...
Je l'explique par la permanence de la culture populaire qui a... préserver la langue d'abord, et il y a encore des gens en Grèce, notamment en Crète par exemple, qui composent des vers, des vers de 15 syllabes, des capendasyllabi, mandinaves quoi. Alors je l'explique par cette... enfin, tous les gens écrivent des poèmes en Grèce. Enfin, je reçois des recueils de poèmes tout le temps. Toi aussi, Hercy, tu dois en recevoir.
Et moi, j'ai une autre explication.
Allez-y.
C'est parce que c'est le climat.
Ah.
On n'a pas les hivers des Nordiques, ces journées sombres où on peut rester dans sa chambre.
Rester 10 heures pour travailler.
Là, il y a ces siestes, il y a ça. La mer, il y a un appel vers le dehors. C'est difficile de se concentrer pour une.
Et donc la poésie vous économise.
Mais
c'est
toute
plus
la
économe.
Méditerranée, même le Liban, la Syrie aussi, l'Égypte, c'est des poètes.
Et quel lien avec la poésie alors? Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'à la poésie, tu écris un vers là, puis tu repenses. La prose a besoin d'une discipline de fer.
Exactement.
La prose a besoin d'une discipline de fer.
Mais on peut ajouter
exemple,
encore
je me réveille à 3 heures du matin pour travailler.
On peut ajouter autre chose pour la poésie. Moi, je parlais de la culture orale. Hercy parle du climat. Il y a aussi le côté affectif. Le grec, c'est un peuple qui est beaucoup plus proche de l'affect que de...
Pensez-vous?
Oui, enfin, le grec moderne, je veux dire. Oui, je pense. Mm-hmm. C'est ce que disent beaucoup de théoriciens chez nous. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai, mais enfin, on a peu d'essayistes, on a peu de romanciers, on a plus de poètes. Actuellement, on a une littérature romanesque très vivante, et je regrette qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs des plus jeunes qui devraient être présents aussi ici et ailleurs.
Eh bien, espérons que ce vœu devienne réalité. Merci infiniment à nos invités. Il nous reste un petit peu de temps avant qu'on nous débarque pour poser éventuellement une question. Vous souhaitez l'un ou l'une parmi vous poser une question, donc n'hésitez pas.
Quelle impression ça vous fait d'être lu? Quelle impression ça vous fait d'être lu?
Ça, ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe quand j'écris. Mais du moment que le livre, un roman ou je ne sais pas, une nouvelle est sorti, là ne m'appartient pas. Donc, même pas, si parfois il y a des observations que moi je ne me reconnais pas, etc., je pense que les textes appartiennent au lecteur après. Donc, pas car un livre sans lecteur est mort. Donc, c'est un acte de demande d'amour en même temps. On doit oser d'étaler quelque chose là et attendre que quelqu'un va les prendre et les lit. Je ne parle pas de l'argent, du temps qu'il va donner. C'est un manque d'affection, quelque chose qui cloche chez les écrivains. C'est les artistes, je pense.
Les artistes en général. Mm-hmm. Merci. Autre question, peut-être ? Oui, monsieur ?
Merci beaucoup. Ma question, c'est concernant la poésie que vous avez dit. Alors, je suis d'accord tout à fait avec votre point de vue concernant le climat, le paysage, si vous le mettez ensemble. Mais il me semble que c'est aussi la pauvreté. Et quand je parle de la pauvreté, je parle depuis l'Antiquité jusqu'à, c'est pas moi. Et ma question, parce que c'est le peuple pauvre qui crée souvent le poème. Vous avez parlé de Crète, et des îles. Et ma question, et ça c'est vraiment une question réelle, est-ce que vous savez si dans l'Antiquité grecque et à la côte de l'Asie mineure, c'est les colons, est-ce qu'il y a des poètes ? Il y a deux philosophes et matérialistes en plus. Alors, c'est ça ma question aussi. Parce que je pose cette question à cause du fait que c'est vraiment très, très riche, cette partie. Et puis, un historien de la philosophie grecque, un italien, et ça m'échappe son nom, il parlait de la côte de l'Asie mineure comme une tranche de jambon entre deux morceaux de pain sec qui est l'intérieur, la Turquie et la Grèce.
L'autre fait qu'on doit signaler, c'est qu'en Grèce, il y a au moins 10, plutôt plus, de revues, magasins littéraires, de poésie, exclusivement de poésie, qu'ils sortent sans subvention. Quelques-unes de plus de 15-20 ans, qu'ils marchent avec un travail personnel. Ça, on ne trouve pas en Europe, quelque chose, un phénomène comme ça. Il y a à Corfou aussi, et avec des traductions qu'on fait gratis, et ils sont très bien. Et aussi, il y a une génération de jeunes poètes, qui sont moins de 35 ans, qui sont vraiment très très forts. Donc la pauvreté aussi, parce que si on écrit des poésies, on peut faire d'autres choses à côté, et la prose... Et ça ne veut pas dire qu'il va être meilleur, prend beaucoup plus de temps. Mais il y a encore cet acharnement romantique, sans que la poésie soit romantique, mais il y a cette chose. Sinon, cette explosion, même pendant la crise, maintenant qu'il y a des revues littéraires, des revues exclusivement de poésie, c'est inexplicable.
En ce qui concerne l'Antiquité, les côtes ioniennes, il faut dire que les premiers philosophes, ils sont matérialistes peut-être, mais ils sont très proches du discours poétique. Si vous lisez des fragments d'Héraclite ou si vous lisez Parménide, c'est un poème, n'est-ce pas ? Parménide, c'est un poème. Et Homère venait de ces régions-là aussi. Plusieurs cités antiques se disputaient de revendiquer Homère.
Mais ma question c'était, est-ce qu'on a des poètes au sens d'Homère, au sens des Hésiodes ? C'est dans ce sens-là.
La question, monsieur.
Plutôt populaire qu'un poète.
Oui.
C'est dans ce sens-là.
Oui, on peut pas. Enfin, vous connaissez la question d'Homère, elle était interminable. Mais enfin, on pense actuellement que c'était pas possible que ce soit un chant populaire parce que c'est très composé. Donc un chant populaire, ça peut pas être composé comme ça. On sait bien que c'était vraiment, il y avait une origine populaire dans ces et orale, mais peu à peu, ce sont des chants extrêmement composés, extrêmement subtils, c'est très savant. Les chants populaires ne sont pas comme ça, n'est-ce pas?
Alors, rebondissant et concluant peut-être sur ce critère que vous avancez de la pauvreté, de la côte, cette côte de la Riviera vaudoise, elle serait alors poète ou romancier ? Moi, je vous laisse juge pour la suite de la journée. Merci d'être parmi nous, d'avoir assisté à la rencontre et bonne fin de manifestation.
C'est nous qui vous remercions.